Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Encore une performance à la Direction générale des impôts DGI. Téné, à l'échéance fiscale du 29 avril, cette régie a collecté plus de 1 milliard de dollars, soit le triple de ses assignations. Une première depuis l'existence de la DGI, explique le directeur de communication de cette régie. Journée internationale de liberté de la presse, c'est aujourd'hui 3 mai. Au Nord Kivu, cependant, le contexte sécuritaire mais aussi l'état de siège rend difficile l'exercice du métier de journaliste, constat relevé au cours d'un atelier organisé à Goma par l'UNPC Nord Kivu. Et puis, l'invité de ce soir, Kabamba Ilunga Wabatame, gouverneur intérimaire du Olomami, il pense qu'après la conférence interprovinciale de Lubumbashi, la prochaine étape doit être consacrée à la sensibilisation pour que le vouloir vivre ensemble soit une réalité pour la paix et le développement. Madame, Messieurs, bonsoir. Encore une performance à la Direction générale des impôts DGI. À l'échéance fiscale du 29 avril, cette régie a triplé ses assignations. Elle a collecté plus de 3 123 milliards de francs congolais, équivalent de 1,5 milliard de dollars américains, selon Jean Mouteba, directeur de communication de la DGI, qui a livré ces chiffres hier à la presse. Ce niveau de collecte de l'impôt est une première depuis l'existence de la régie. Jean Mouteba explique au micro de Paul Matendo Mayamba.
Le premier volet de ce contrat de financement de 2022 repose sur deux faits. D'abord, maintenir la tendance haussière, c'est-à-dire maintenir cette évolution progressive des recettes constatées en 2021 pour que les recettes de cette année ne soient pas inférieures à celles réalisées en 2021. Et deuxièmement, insister sur la numérisation et la digitalisation de toutes les procédures fiscales. Qu'est-ce qui fait que nous sommes allés au-delà? Dans le plan d'action mis en place par la Direction générale des impôts, il y a eu des actions qui n'étaient pas entreprises au niveau de l'année 2021 et qui ont fait que, de leurs applications, on connaît ce qu'on appelle l'accroissement des recettes. Et une des actions prises par la Direction générale des impôts, c'est dans le cas de l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire travailler de sorte que on puisse avoir un nombre important de contribuables et faire en sorte que de l'augmentation du nombre de contribuables qu'il y ait aussi augmentation du nombre de recettes. Et des mesures qui ont été prises pour lutter contre toute exonération qui ne soit conforme à la loi, ainsi que la réforme même de la TVA, ont fait que ces mesures-là ont pu apporter un accroissement de recettes par rapport aux recettes réalisées en 2021.
Direction le Nord Kivu. Le contexte sécuritaire, mais aussi l'état de siège, rend difficile l'exercice du métier de journaliste. C'est entre autres constat fait ce mardi 3 mai à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de liberté de la presse. Une journée d'échange a été organisée par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section du Nord Kivu, au cours de laquelle différents acteurs médiatiques ont évoqué plusieurs défis qui entravent la liberté de la presse. Le compte-rendu de Sifa Maguru.
Au regard de la complexité de la situation sociopolitique au Nord Kivu, la présidente de l'UNPC a, dans son mot, salué la mémoire de tous les journalistes assassinés dans l'exercice de leur métier, mais aussi le courage et l'abnégation de tous les autres à braver l'insécurité, les pressions de tous bords et parfois la précarité dans leurs organes de presse. Rosalie Zawadi, présidente de l'UNPC Nord Kivu.
Les différentes forces en présence veulent chacune avoir une emprise sur les traitements de l'information, alors que les journalistes doivent rester au centre pour l'intérêt de la communauté. Je remercie donc le gouvernement provincial pour l'accompagnement sans faille qui nous est fourni. Nous continuons à demander l'appui financier direct aux organes de presse.
Madame Zawadi a également attiré l'attention des journalistes sur la bonne utilisation du numérique, notamment les réseaux sociaux, pour améliorer leur travail et non pas pour régler des comptes à des tiers, jetant ainsi l'opprobre sur toute la profession. Cette journée a également été marquée par la cérémonie du couronnement du jubilé d'or dans la presse de l'un des seniors de la presse de Goma, à savoir Elongo Kandakanda de la RTNC Nord Kivu. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et puis, le gouverneur de la province du Kasaï est formel. Il n'y a pas eu de maltraitance des Kasaïens au Grand Katanga. De ce fait, il invite le peuple du Kasaï à se retenir de tout comportement susceptible de remettre en cause le vouloir vivre ensemble. Dieudonné Piémé l'a fait savoir hier à Lubumbashi au cours d'un briefing organisé par le ministre de la Communication et Médias, ce en compagnie de son collègue du Haut Katanga, pour parler du climat qui a prévalu au cours de la conférence interprovinciale entre les provinces du Grand Katanga et celles du Grand Kasaï. Le gouverneur Dieudonné Piémé est au micro de Jean Gandou.
Il est important que la population du Kasaï fasse preuve de son hospitalité légendaire et ne pas glisser dans le système de vengeance pour s'attaquer aux autres citoyens qui viennent des autres provinces. Notre province est un carrefour qui reçoit pratiquement tout le monde, du Grand Kivu au Grand Bandundu, en passant par le Grand Katanga, et que la ville de Tshikapa, qui est cosmopolite, est une ville qui doit recevoir tout le monde. J'invite donc le peuple du Kasaï à pouvoir se retenir de tout comportement qui pourrait conduire à des revanches ou à la mauvaise compréhension de ce qui s'est passé au Katanga. Parce que je crois que les Kasaïens n'ont pas été maltraités au Katanga. Je crois qu'il y a un débat chaud, mais il n'y a pas de maltraitance du Kasaïen au Grand Katanga. De la même manière, j'en appelle donc au peuple du Grand Kasaï de faire honneur au président de la République et afficher l'hospitalité légendaire qui est la leur.
Rendons-nous au sud Kivu. Nous apprenons que le calme est revenu ce mardi dans la périphérie de la cité de Minova, dans le territoire de Calais. C'est après 2 jours de fortes tensions entre les militaires et la population locale. Des cas d'arrestation suite à un conflit foncier ont débordé et ont fait 2 morts, dont un militaire et un civil. Un mouvement des déplacements de la population est observé vers Minova Centre. C'est ce que nous dit Emmanuel Elameji Wakabedi.
L'affaire remonte à dimanche dernier quand une équipe de l'auditorat militaire de Minova a tenté d'arrêter un prétendu général autoproclamé qui serait impliqué dans un conflit foncier dans la presqu'île de Bouzi-Boulenga. Un groupe de jeunes s'est donc opposé à cette opération en s'attaquant aux militaires. La société civile de Minova indique dans la foulée, une balle perdue a atteint un jeune de 14 ans qui est mort sur le champ. En représailles, les jeunes de Kagarama ont lynché à mort un militaire de l'auditorat. Ce n'est que ce lundi 2 mai que les 2 corps ont été retirés pour inhumation. Nos sources sur place parlent de plus de 1000 ménages de la presqu'île de Bouzi-Boulenga qui sont en déplacement en ce moment vers Minova Centre jusqu'en direction de Goma. L'administrateur de Calais plaide pour le renforcement des militaires dans cette partie pour bien maîtriser la situation qui risque d'exploser à tout moment. Les jeunes gens de Kagarama et de Boulenga, munis des armes blanches, se regardent en chaîne de faïence. Ce conflit foncier a déjà fait environ 5 morts et 100 d'arrestations dans le territoire de Kalehe. Emmanuel Elamijo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Nord Kivu, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, plaide pour une assistance urgente du gouvernement en faveur d'au moins 100 000 ménages des déplacés qui vivent sans assistance humanitaire dans certaines localités du territoire de Beni. Selon le coordonnateur de cette organisation des défenses des droits de l'homme, la plupart de ces nécessiteux qui fuient les attaques des rebelles ADF en Ituri et dans plusieurs villages du territoire de Beni sont dépourvus de tout. Maître Omar Kavota explique la situation au micro d'André Kitenge.
Il s'observe un afflux de déplacés en séjour dans nombreuses agglomérations et de déplacés qui traversent des conditions effarantes. Des milliers de familles sont aujourd'hui sans abri à grand nombre à Oicha, à Nobili, à Bulongo, à Kasindi, à Mangina, dans les territoires de Beni et même à Beniville. Et nous sommes en train d'observer que la plupart de ces déplacés qui sont concentrés dans ces agglomérations sont sans abri, sans soins médicaux, sans assistance à vivre et autres produits de première nécessité. Il y a parmi les déplacés des enfants. Il y a des élèves qui ont fui et qui ne savent pas aujourd'hui étudier. Nous croyons qu'il est plus qu'urgent de joindre à l'action militaire de l'état de siège un appui à terme d'assistance humanitaire aux milliers de familles de déplacés. Et c'est pourquoi nous voudrions alerter le gouvernement central, particulièrement le ministère des Affaires humanitaires, parce que nous pensons que l'heure est grave. Il faut assister urgentement ces personnes en détresse qui mérite l'attention de l'État et de tout le monde.
Rendons-nous au Congo central pour signaler le lancement hier à Matadi par la Commission électorale nationale indépendante CENI de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles pour les élections de 2023. C'est Paul Muindo, rapporteur adjoint de la CENI, qui s'est livré à cet exercice, ce à l'issue d'un cadre de concertation organisé à l'intention de toutes les forces vives de la ville de Matadi. À en croire ce dernier, cette opération d'actualisation des cartographies opérationnelles permettra la géolocalisation des sites utilisés par la centrale électorale. L'objectif est de rapprocher les électeurs des agents de la CENI pendant les différentes activités liées aux échéances électorales de 2023. Explication avec Nana Plurich Mambou.
Cette opération d'actualisation des cartographies opérationnelles consiste à revérifier les sites qui abritent les anciens bureaux d'enrôlement et de vote de la CENI. C'est question de voir si, en raison du rapprochement des populations vers ces sites, la CENI peut maintenir certains bureaux, ajouter d'autres et pourquoi pas supprimer d'autres qui vont s'avérer non viables. Pour améliorer la collecte des données, cette opération d'actualisation de la cartographie se fera cette fois-ci à l'aide des smartphones. Elle sera menée dans tous les coins et recoins habités du territoire national pour une durée d'un mois. Pour l'heure, la centrale électorale est en train de former des formateurs des préposés qui vont exécuter ce travail. Ces préposés de la CENI travailleront avec les administrateurs des territoires, des chefs des secteurs et des groupements, des chefs des villages et des quartiers, les responsables de l'EPST et les infirmiers titulaires pour identifier les écoles et les centres de santé à travers les pays et voir lesquels seront accessibles pour la population. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Province du Maniema, le centre hospitalier Lumbulumbu a débuté hier les consultations spécialisées gratuites des femmes souffrant des problèmes d'infertilité primaire et secondaire, ainsi que celles ayant d'autres pathologies gynécologiques comme fibromes, les troubles des règles et aussi la sensibilisation de masse au sein, des douleurs chroniques de la hanche et autres. Selon le médecin gynécologue et obstétricien de ce centre, ces consultations d'un mois visent toutes les femmes concernés par ces pathologies. Dr Mbungu Mulaila explique au micro de Florence Kizalunga.
Et aucune condition, ce sont des consultations gratuites organisées par la structure. Sont bénéficiaires toutes les dames de la province. Il y aura une prise en charge qui sera sensiblement allégée par rapport à notre coût. Et ces femmes vont se prendre en charge moyennant le minimum de frais possible pour couvrir le soin eux-mêmes ainsi que quelques examens de laboratoire que nous aurons demandés. C'est pourquoi nous venons encore une fois en aide à cette population parce que nous avons fait un constat lorsque nous avions le financement du projet PDSS qui avait pris en charge toutes les pathologies et les femmes bénéficiaient des soins gratuitement à 100%. Mais cette fois-ci, d'autant plus que nous n'avons pas de financement quant à ça, nous nous sommes dit, nous pouvons leur permettre d'avoir accès pour des consultations par le personnel qualifié et qu'eux-mêmes contribuent tant soit peu avec leurs moyens de bord pour la suite de la prise en charge.
Province de la Tchopo, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a lancé hier à Kisangani la caravane du LMD, ce nouveau système d'enseignement en milieu universitaire en RDC, une occasion pour Moïndo Nzangi de se féliciter de la mise en œuvre effective de cette réforme, 8 ans après son adoption par le gouvernement congolais. Mais quel est le bien fondé de cette réforme et que dire des instructions édictées lors de son passage à Kisangani 8 mois après? Jacques Moukonkolé.
Du haut de la tribune, le ministre de l'ESU a rappelé les 5 piliers de son mandat à la tête de ce ministère, dont l'aboutissement du système LMD. L'objectif de cette réforme adoptée par le gouvernement depuis 2014 est de doter les étudiants des compétences requises afin d'exercer un métier à la fin de leurs études. Muindo Zangi Butondo.
On ne veut plus former les chômeurs. Nous voulons qu'à la fin de vos études, vous soyez capables d'exercer un métier précis. Et qu'au début de vos études, vous soyez capables de choisir et de savoir qu'en choisissant telle filière, vous êtes destiné à exercer tel métier.
Dans ce mot à l'attention du ministre de tutelle, le représentant des étudiants de l'ESU dans la Tchopo a dénoncé certaines antivaleurs que certains enseignants tentent de perpétuer, notamment la vente des syllabus et les droits d'auteur, ainsi que l'exigence des frais non officiels. Le ministre de l'ESU a mis en garde le récalcitrant sous peine de révocation aux étudiants, il les a renvoyés à la circulaire 023.
Ne payez pas les frais qui ne sont pas fixés dans la 023. Ne payez pas moins et ne payez pas plus.
Ce mardi, Moïndo Zangui se rendra à Issio avant de poursuivre sa caravane à Bounia le mercredi prochain. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité, Afrique monte.
République centrafricaine, Human Rights Watch accuse les paramilitaires russes de meurtre et torture sur des civils. Cette organisation internationale de défense des droits de l'homme a publié ce mardi 3 mai un rapport dénonçant des forces liées à la Russie d'avoir sommairement exécuté, torturé, battu des civils en février 2019 et novembre 2021 en Centrafrique. En Somalie, des militants islamistes radicaux Shebab, lourdement armés, ont attaqué ce mardi une base militaire de la force de maintien de la paix de l'Union africaine, faisant des victimes. Information rapportée par un commandant militaire local et des témoins, l'attaque conduite avant l'aube a visé une base abritant des soldats burundais de Latmis, près du village de El Baraf, à 160 km au nord-est de Mogadiscio, la capitale somalienne, indiquent les mêmes sources.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons dans ce journal le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Lomami, Kabamba Ilunga wa Batame, qui a pris part à la conférence interprovinciale entre les provinces du Grand Katanga et celle du Grand Kasaï, dont la clôture est intervenue le samedi 29 avril dernier, pense que la prochaine étape doit être consacrée à la sensibilisation pour que le vouloir vivre ensemble soit une réalité pour la paix et le développement. Le gouverneur Kabamba Ilunga s'entretient avec Jean Gandou Kabongo.
Monsieur le gouverneur Kabamba Batame, bonjour.
Bonjour Jean Gandou.
La conférence interprovinciale a pris fin, les résolutions ont été rendues publiques. Quelles sont celles qui peuvent être, d'après vous, mises en pratique comme maintenant pour que les tensions qui ont été décriées puissent s'estomper?
Ce que je voudrais dire, c'est d'abord rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il soit vite intervenu afin de pouvoir mettre de l'eau sur le feu qui guettait la maison. C'est un comportement de beaucoup de sens de responsabilité éprouvé de la paix. Ce qui doit être rapidement mis en action, c'est d'abord la sensibilisation de la population, des uns et des autres, de pouvoir retenir, reconnaître les valeurs qui sont importantes à court terme pour le savoir vivre ensemble. C'est comme on a demandé par exemple que ceux de nos frères venant du Kasaï sachent s'intégrer pour respecter les valeurs culturelles des locaux. Les locaux aussi doivent apprendre aussi à supporter les valeurs culturelles des autres qui ne blessent pas la sensibilité parce qu'ils ne peuvent pas exiger que toutes les valeurs soient identique à 100%.
Qu'entendez-vous par s'intégrer?
S'intégrer, c'est l'acceptation réciproque. Si vous n'acceptez pas l'autre, vous n'allez pas vivre avec lui en harmonie. Si vous aussi qui recevez l'autre, vous n'acceptez pas que cet autre-là, comme on dit en latin, c'est un alter. Cet alter n'est pas le ibidem, c'est-à-dire de la même façon, non. Il faut savoir qu'il y a une certaine différence qui existe. Et ces petites différences-là, nous devons les accepter. Elles ne doivent pas être considérées comme des sujets à séparation à conflit.
Est-ce que les tensions telles qu'on les a vécues à Lubumbashi, on les vit vraiment au quotidien dans votre province?
Les tensions comme à Lubumbashi, chez moi, je n'en vois pas. C'est rare même que je puisse réellement connaître que ça c'était un Kasaïen, ça c'était un Moulouba. Je les vois seulement tous des enfants du Haut-Lomami. C'est vrai, quand les gens restent ensemble, vous vous en doutez, le plus souvent ceux qui provoquent ces choses, ce sont des gens qui partagent un verre, et surtout dans les milieux des jeunes. Nous les anciens, même avec nos amis, nous avions l'habitude de blaguer sur nos différences. Mais ces blagues-là n'amenaient pas de tension. Mais pour les jeunes actuels, ils trouvent que quand on doit se parler ou se chamailler sur des petits faits, ils cherchent la violence. De notre temps, ce n'était pas la violence. C'est pourquoi nous les invitons à ne pas recourir toujours à la violence, que ces différences-là soient des petits faits de nature à alimenter la conversation.
Qu'est-ce qui facilite cette intégration entre les habitants du Haut-Lomami et ceux qui viennent d'ailleurs?
Nous sommes régulièrement en contact avec nos provinces sœurs de la Lomami et du Kasaï oriental. Les gens du Olomami, presque chaque semaine, presque chaque mois, ils descendent, qui est à Bujimaï, qui est à Kabinda, avec du maïs à aller vendre. Ou bien ce sont ceux de là qui viennent, qui sont tous les temps à Kamina, à Malembankoulou pour acheter le poisson. Donc il y a cette fréquence qui fait qu'on ne tient plus tellement compte de dire que celui-là vient de là, celui-là vient de là.
Maintenant que c'est fait, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer aux uns et aux autres pour que la cohabitation soit réellement pacifique?
Le grand travail maintenant, c'est un travail pédagogique. C'est-à-dire les leaders d'opinion, les autorités qui encadrent les populations doivent maintenant intensifier la sensibilisation qui fera que chacun va s'en tenir à un comportement approprié. Il n'y a personne qui a choisi de naître au Katanga. Il n'y a personne qui a choisi de naître au Kassai. Nous sommes nés par la force de Dieu et nous devons nous accepter. Quand un Kassaïen passe, vous ne voyez pas sur son visage écrit « ça c'est un Kassaïen ». Quand un Katangé passe, ce n'est pas écrit sur son visage que ça. Tous sont des créatures de Dieu et dans la volonté de Dieu, nous devons vivre dans l'harmonie.
On vous accuse, vous les leaders politiques, d'être les tireurs de ficelles.
Un leader politique, comme nous avons parlé, doit être un assoiffé de la paix et de la concorde des peuples. Mais si les leaders politiques considèrent ici que la présence, l'augmentation de la population aura un écho sur les urnes prochainement. Je me demande si les leaders politiques vont comprendre ça ou l'accepter. Ça deviendra encore un travail qu'il faut abattre avec force. Faute de quoi, nous risquons de décrier ça plus tard.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean Gandou.
Notre invité, le gouverneur intérimaire du Olomami, répondait aux questions de Jean Gandou Kabongo. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Irung Mouchinj. Merci de votre attention.